France Musique.
Merci Lionel, je vous souhaite un excellent week-end. On vous retrouve lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
This is a electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi j'ai trahi la musique respectable et la musique concrète.
Bruno Le Thor.
Et de violoncelle de mon enfance. Pour le magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
C'est sous le signe du piano et du Japon que ce tapage nocturne sera placé avec une émission consacrée à la pianiste Momo Kodama. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec une nouveauté discographique, celle proposée par le compositeur Dai Fujikura. Musicien au parcours pluriel qui explore les gravitations autour des esthétiques, il a notamment collaboré avec David Sylvian pour l'album Iconoclaste de Manaphone qui réunissait à l'époque la fine fleur des musiques inclassables d'Evan Parker à Christian Fenech, de Keith Rowe à Otomo Yoshihide. Dans Chance Monsoon, son nouvel opus discographique, il présente ses dernières œuvres de nomenclatures diverses, allant du grand ensemble occidental aux instruments traditionnels japonais. Son univers, riche de croisements culturels, emmène l'auditeur vers des contrées souvent vierges de toute incursion, déstabilisant avec maîtrise les repères d'écoute. Parmi ses œuvres, deux petites pièces pour piano, Seksek et Hayatori, composées en août 2011 et interprétées ici par Jacob Greenberg. Sek-Sek et Hayatori de Dai Fujikura, interprété par Jacob Greenberg et extrait de l'album Chance Monsoon qui vient de paraître.
France Musique, Tapage Nocturne, Bruno Le Thor.
Momo Kodama puise à part égale aux sources françaises et japonaises. On atteste sa discographie, accordant une large place à Messiaen, Debussy, Ravel, Takemitsu ou Ozokawa, juxtaposition brillante d'un répertoire où souvent France et Japon se font mutuellement écho. Le regard qu'elle porte aux partitions est toujours le fruit d'une approche nouvelle, sensible et inventive, au-delà de la dualité répertoire-création. Artiste hors norme, elle a imposé au fil du temps une approche particulière qui, et ce n'est pas un hasard, a attiré l'oreille d'un certain Manfred Eicher, grand ordonnateur du label ECM. Momo Kodama est l'invité de ce tapage nocturne.
Thank you.
Bonsoir Momo Kodama.
Bonsoir.
Alors vous laissez une large place à la musique contemporaine dans votre répertoire. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous apportent ces œuvres contemporaines?
En fait, je dois vous dire que la musique contemporaine faisait toujours partie de ma vie depuis que j'étais étudiante ici au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et dans cet enseignement, dans cet établissement, la chose qui était merveilleuse, c'est qu'on ne faisait pas la différence entre Mozart et Messiaen et Boulez, parce que c'était la musique. La seule chose, c'est différencier, c'est dans quelle époque c'était écrit. Donc ça faisait partie de toute l'histoire de la musique. Il n'y a pas quelque chose comme une coupure de musique contemporaine ou romantique. Ce qui fait que même aujourd'hui, des choses qui me parlent ou que j'ai absolument envie ou une urgence de vouloir interpréter les œuvres, ça peut être contemporain, écrit de nos jours, comme ça peut être de la période romantique ou classique. La différence, bien sûr, c'est qu'on a de la chance de rencontrer les compositeurs et qu'on peut avoir une grande chance, parfois faire des créations aussi. Ce qui est aussi quelque chose de très émouvant parce qu'on commence une pierre dans tout le répertoire de musique qui après qui va évoluer et qui va devenir peu à peu part de l'histoire aussi. Bien sûr, ça c'est la part très fascinante de la musique de nos jours.
Vous avez enregistré un opus discographique qui réunit Debussy et Ozokawa. Est-ce que vous voyez une filiation entre ces deux compositeurs?
Oui, à l'origine, les études de Ozokawa étaient écrites pour être jouées avec les études de Debussy. Donc je les ai données beaucoup par cycle de 12 études de Debussy et 6 études de Ozokawa. Et en les jouant comme ça par cycle, je me suis dit quand même, il y a beaucoup de, comme vous dites, de liens. Parce que forcément, Ozokawa avait en tête les études de Debussy, même si c'est un langage très différent, je pense qu'il y a cette différente couche de couleurs, superposition de couleurs très raffinée. Il y a les gestes musicaux aussi, et des choses très concentrées d'une façon de motifs, et quelque chose dans l'italien inattendu aussi. Où on peut dire qu'il y a un respect, on voit dans le Ozokawa un grand respect pour Debussy, et je pense que si Debussy aurait écouté Ozokawa, j'imagine que ça l'aurait beaucoup plu. Donc c'est à partir de là, c'est l'idée est venue de faire une sorte de conversation entre les deux.
C'est un peu ce que vous aviez fait dans le précédent disque, une sorte de conversation, c'est ça. De filiation entre Ravel, Messiaen et Takemitsu.
C'est ça. D'autant que je trouve que c'est très important, très intéressant aussi de voir un peu, de les mettre l'un à côté de l'autre. Et ça, c'est aussi un peu la philosophie de cette maison de disques ECM. C'est pas d'écouter comme ça la plage, quand on commence par écouter la plage 5, par exemple, du disque, mais toute la dramaturgie de disque. Ça veut dire de commencer vraiment par la plage 1 pour aller jusqu'à la dernière plage, comme ça qu'il y a une forme de narration.
Thank you.
Thank you.
Le fait de travailler avec ECM, donc avec Manfred Eicher, est-ce que ça vous a donné une approche différente de votre interprétation, en tout cas de la manière de construire les programmes?
Ça n'a pas drastiquement changé parce que j'étais aussi dans cette opinion de voir que les programmes sont très importants aussi dans les récitals. Et donc je pense que là on s'est rejoint un peu avec Manfred Eicher quand on a commencé à travailler. Après, la façon de voir la création, c'est un génie, Manfred Eicher. Il m'a ouvert les yeux pour plein de choses, notamment dans quel ordre bâtir les programmes. Donc moi j'avais une idée, il m'a suggéré une autre idée qu'il a peut-être un peu changée et qui était pour moi très très convaincant et même très qui m'a ouvert les yeux. Et pareil quand il vient aux enregistrements, parce qu'il est toujours là pour les enregistrements et il dit pas beaucoup de choses, il dit 2-3 choses qui ouvrent d'autres perspectives. Et aussi par la couverture, par exemple, des disques que je trouve, que j'aurais jamais pensé de mettre une couverture comme ça pour ce programme, mais qui met une fraîcheur et une originalité très propre à lui, qui était très inspirant pour moi.
Quel regard vous avez sur les compositeurs japonais? Beaucoup de compositeurs japonais ne vivent plus au Japon.
Oui.
Sont soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne ou en France.
Oui.
Quel regard vous avez sur la composition japonaise aujourd'hui? Composition qui a été vraiment totalement transformée par l'apport de Takemitsu avec cette volonté de renouer avec les racines.
Oui, il y a Takemitsu et il y avait toute une bande. Il y avait Ichiyanagi, il y avait Yuasa qui était un peu le groupe des trois, qui étaient très très copains d'ailleurs. Ils habitaient dans le même immeuble, ils s'échangeaient. Ça, c'était la génération un peu maintenant qui ont 90 ans, 100 ans. Après, il y a eu la génération Hosokawa qui était très influencée par Takemitsu, bien sûr. Nodaira, toute cette époque-là. Et maintenant, il y a aussi toute une jeune génération qui sont très, très personnels, très différents. Alors, il y en a qui coupent complètement la tradition japonaise, et il y a d'autres qui sont ancrés. Enfin, ça va un peu dans tous les sens, et c'est très intéressant, parce qu'il y avait Takemitsu, parce qu'il y avait Hosokawa. Maintenant, la jeune génération, ils se permettent de faire beaucoup de choses encore à leur propre façon, qui vont peut-être avec l'époque aussi qu'on vit. Comme Daifu Ishikura, comme Misato Mochizuki, voilà, comme Kenji Sakai.
Vous vivez en France depuis fort longtemps maintenant.
Oui.
Quel regard vous avez sur le Japon?
Oh, ça change beaucoup et il y a une philosophie de vie qui reste. Et j'espère qu'il y a aussi cet ancrage de racines qui va rester. Enfin, ça c'est mon grand souhait parce que moi qui n'ai jamais vécu vraiment au Japon, je sens quand même mes racines très fortes au Japon. Et peut-être que c'est un peu moins évident quand on vit vraiment dans le pays, parce qu'on a forcément envie de voir un peu ailleurs, ce qui est très bien aussi, mais je pense que c'est important, même si on a la curiosité, la bonne curiosité d'aller voir d'autres cultures, ce qui est très important pour enrichir sa personnalité, très important d'avoir les racines quelque part. Et j'espère que pour tous les Japonais, que ça reste dans ce domaine.
Parlez-nous un peu de vos projets.
Oui. Je vais jouer beaucoup de Debussy cette année.
En cette année Debussy.
Ouais, spécialement beaucoup. Bien sûr, je vais refaire le Hosokawa avec les études de Debussy. Il y a une chose qui est un peu nouveau pour moi que je vais faire juste le 25 mars. Vraiment le jour où Debussy est mort. C'est à Paris, à la Bellevilloise. C'est un projet avec le merveilleux acteur Pascal Rénéric et le chanteur catalan José Pramon Olivier. On va faire un spectacle d'une heure sur sa musique, mais aussi par les écrits de Debussy, Monsieur Croche, parce qu'il a écrit des choses très intéressantes et qui sont toujours très actuelles de nos jours, et c'est un peu un mélange pour présenter Debussy de toutes les facettes. Et c'est la première fois que je fais un projet comme ça, et je suis très ravie de pouvoir le faire avec ces artistes merveilleux.
Merci beaucoup, en tout cas, Momo Kodama, d'être venu nous voir dans cette émission, et à bientôt.
Merci, à bientôt. Thank you.
Thank you.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était Jean-Michel Bernaud, attaché d'émission Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son émission Création mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.